toute application a besoin de stocker ses données quelque part. Au début des années 2000, on ne se posait pas trop de questions. Les bases de données relationnelles étaient au sommet de leur popularité et on hésitait entre SQL Server, Oracle, la déjà vieillissante DB2 sur AS400 ou la toute nouvelle MySQL en open source. Bien entendu, quand Microsoft Azure est arrivé en 2010, il proposait ses différentes offres. Mais depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que la panoplie des possibilités a explosé, notamment en s'ouvrant aux bases de données NoSQL, aux Data Lake, CacheReady, Tenco. Le but de cet épisode est d'explorer cette jungle des possibilités de stockage. Alors, plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et ben pour nous parler de stockage et de bases de données dans Azure, je reçois Frédéric Gisbert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es Cloud Solution Architect pour les partenaires ISV chez Microsoft.
C'est ça, Cloud Solution Architect chez Microsoft, division partenaire, spécialisée sur tout ce qui est data analytics. Et mon métier, globalement, c'est d'accompagner nos partenaires sur l'industrialisation des services data dans le cloud.
D'accord. Bon, ça tombe bien. Et nous avons également Emmanuel Deletan. Bonjour.
Bonjour. Donc oui, je suis Emmanuel Deletan. Moi, je suis spécialiste technique sur le NoSQL chez Microsoft. Voilà, donc je travaille avec Frédéric et d'autres.
D'accord. Donc c'est le spécialiste du NoSQL, quoi. Comme on disait, la ceinture noire du NoSQL.
Tout à fait.
Et nous avons également Michel Perfetti. Bonjour.
Bonjour.
Et alors toi, tu es toujours Microsoft MVP toujours. Depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps, et CTO chez Celenza.
Ouais, c'est ça. Bah, j'accompagne nos clients sur la mise en place de la plateforme Azure.
Donc tu vas m'aider à découvrir un petit peu tout cet univers de stockage. Alors, au niveau du stockage des données, j'avoue, je suis un petit peu perdu dans toutes les possibilités qu'offre Azure. On a des tables où on dit qu'on peut stocker des millions et des millions de lignes de données, des blobs, des data lakes, des Azure Files. On a aussi de l'Azure SQL, du SQL Managed Instance, du SQL sur des virtuelles machines, on a du Progress SQL, on a du MySQL, du MariaDB, et bien entendu, on a le produit phare Cosmos DB. Et je suis sûr que dans tout ce que j'ai énoncé, j'en ai encore oublié des possibilités qu'on a sur Azure. Donc on a une pléthore de solutions. Donc le but aujourd'hui, c'est un peu de m'éclairer sur ces différentes solutions et de savoir quelle technologie choisir avec suivant le scénario d'une application ou d'un univers dans une DSI. Alors donc, je vous propose de passer en revue les différentes solutions une à une. Tout d'abord, on va revenir sur l'historique des bases de données à l'intérieur d'Azure, c'est-à-dire les premières solutions qui ont existé au lancement d'Azure. On avait ce qu'on appelait les tables, les blobs, les files et les queues qui sont apparues en premier. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu à quoi ça sert ces trucs-là, Frédéric, peut-être?
Oui, je peux commencer. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu historique. Disons que c'est les premiers niveaux de stockage qu'on peut avoir dans le cloud aujourd'hui. Donc, tu as un peu résumé les choses. Tout ça tourne autour d'un seul service qui s'appelle le Azure Storage Account. D'accord. Et en fait, sur cet Azure Storage Account, tu peux en effet avoir des stockages de type blob, tu peux avoir des stockages de type queue, de type file. Et dernièrement, on a aussi fait le merge avec un ancien service qui était un service de Data Lake. Donc maintenant, tu es capable de configurer ton Storage Account pour qu'il représente un Data Lake. Donc tu vois, c'est cet ensemble d'exposition de services qui tourne autour d'un seul et même service qui est provisionné dans le cloud qui s'appelle un storage account. À partir de là, c'est vrai que tu peux activer des features un peu différentes sur ce storage account. Et par exemple, le stockage blob va te permettre de stocker des blobs dans ton storage. Ta queue dans ton approche de développement, tu vas pouvoir t'en servir justement pour une queue de fichiers sur ton stockage. Tu as aussi la notion de table. Donc ça, c'est très, très historique. Tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle des tables dans ton storage account, et tu vas raisonner sous la forme d'une clé valeur, et donc ça va te permettre de stocker des données sous la forme de clé valeur et de faire des requêtes sur cette table. C'est aussi très orienté développement, tu vois.
Oui, je crois que tout ce qui est insight, c'est à l'intérieur de les logs de insight, c'est à l'intérieur de tables, que je crois, qui sont.
Tu as beaucoup de choses, ouais, qui sont aujourd'hui à l'intérieur de table. Il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal d'autres features qui sont à l'intérieur de table. Mais c'était, ouais, c'est du coup, c'est parce que c'est très historique. Aujourd'hui, on a beaucoup utilisé en première approche le table storage. Alors aujourd'hui, ça, c'est aussi un peu, je dis pas remis en question, mais aussi challengé par les approches Cosmos. Et Emmanuel en parlera un peu tout à l'heure, justement, sur cette notion de stockage clé valeur dans de la Cosmos, et potentiellement même lié à des caches Redis, tu vois, où tu vas ramener cette notion de clé de valeur dans un cache, et peut-être un peu moins utiliser le table storage. Il y a aussi une notion de coût, hein, tu vois, le table storage aujourd'hui est bien moins cher que d'autres services, c'est pour ça qu'il reste quand même pas mal utilisé. Mais tu vois, ça c'est très orienté développement, en fait, le queue, le table storage, c'est très orienté développement applicatif, tu vas beaucoup t'en servir. Après, derrière, on a tout ce qui est file storage. C'est aussi pour le partage de fichiers entre services et entre serveurs. Et le dernier aspect, c'est vraiment l'aspect de stockage de blob en tant que tel. Donc, le blob storage où tu vas venir déposer à peu près n'importe quoi. Et tu vas
Mais,
savoir. Ouais,
ouais,
et tu.
d'ailleurs, quelle est la différence entre justement là, le file system, enfin le file et le blob? Parce que
Le
ça se
file, en
ressemble
fait,
beaucoup.
c'est ce qui va te permettre de par exemple, monter des partages SMB, tu vois, pour partager des ensembles de fichiers ou des ensembles de sources entre serveurs. Le blob, c'est vraiment un stockage pur au format binaire de tes fichiers, d'accord? Donc, c'est le format le plus bas niveau que tu vas pouvoir stocker sur ton Azure Storage. Et maintenant, on est capable de transformer ce storage en data lake. Donc vraiment, tu vas avoir une approche de data lake avec un stockage hiérarchique, avec la possibilité de sécuriser chacun des nœuds avec des ACL au sein de l'arborescence de ton data lake. Et surtout, le fait de pouvoir faire le switch en data lake, ça va te permettre d'optimiser les requêtes qui vont arriver sur ton data lake. Tu vois, c'est là où son blob storage, et tu vas aller lire un fichier, tu vas retourner un fichier. Le fait d'avoir ce switch en data lake, c'est quand ton stockage va recevoir la requête, tu vas avoir une notion de partitionnement et tu vas pouvoir justement aller multithreader la lecture des informations sur ton data lake pour récolter, tu vas remonter plus de données d'une façon plus rapide, etc. Tu vois, ça c'est une autre optimisation, quoi.
Oui, et puis
Donc,
j'imagine que c'est pas le même coup aussi.
c'est pas le même coût et c'est pas la même performance. Tu vois, c'est voilà. Le pricing, c'est encore quelque chose qui est un petit peu, qui peut être encore un peu complexe sur ce genre de service parce que tu as une notion de stockage qui est assez simple à comprendre, mais tu as aussi une notion de transaction sur ton storage account qui est souvent un peu plus compliquée sur laquelle il est un peu plus compliqué d'anticiper les choses dès le début, mais voilà quoi. Donc pour résumer, tu vois, ton storage, tu as vraiment une approche qui est très développement d'application avec le table storage, avec les queues. Tout ça, c'est très très orienté développement. Après, tu as le stockage brut avec le file ou le blob storage. Et après, pour moi, tu as le troisième environnement qui est vraiment l'orientation data lake et analytique. Tu vois, c'est
D'accord. Oui, donc c'est un peu plus clair, je pense. Michel, tu voulais dire quelque chose sur ça?
Ouais, bah, le compte de stockage, c'est quand même quelque chose qui est central dans plein de services. C'est une sorte de couteau suisse de stockage. On le retrouve partout dès qu'on veut. Dès qu'on a des VM et qu'on veut mettre des logs, ils sont stockés dedans. C'est vraiment le service qu'on retrouve le plus systématiquement dans Azure. Il y a rarement des projets où on n'a pas un compte de stockage qui traîne. Et le gros avantage qu'on a sur les fichiers, c'est leur versatilité. On peut soit écrire des fichiers par bloc, soit on a des blobs qu'on peut mettre juste en append pour mettre des logs, ce qui fait que le fichier est accessible en entier, mais quand on pousse du code dedans, en fait des données dedans, on va les mettre juste à la fin, ce qui fait qu'on a des API assez simples et performantes pour pouvoir faire des fichiers en ajout, donc c'est très pratique de faire des logs avec. Mais donc voilà, c'est vraiment vraiment un système très pratique d'utilisation et pas cher du tout, quoi. Il y a des limitations sur plein de choses, sur les tables, sur l'ordre des tri, sur la recherche, mais pour ce que ça coûte, c'est vraiment un service très bien à utiliser.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Bien, on va passer à la deuxième catégorie qui est les bases de données relationnelles, donc qui ne vont pas faire plaisir à Emmanuel. Donc, là, j'allais dire, quand on veut faire du SQL Server, moi je me souviens, historiquement parlant, on voulait au tout début du lancement d'Azure faire du SQL Server sur Azure, mais au niveau des performances, c'était pas encore ça par rapport à des bases de données on-premise. Alors, je suppose que depuis, ça a bien évolué. Mais quand je vais voir la documentation, je vois qu'il y a au moins trois types de Azure SQL. On a de l'instance managée, on a du Azure SQL et puis on a du Azure sur des virtual machines. Quelqu'un peut m'expliquer un petit peu ce que c'est que tout ce bazar?
Oui, du coup, je vais te refaire les grands ensembles. Et après, Emmanuel pourra rebondir parce que là, tu disais que ça ne va pas faire plaisir à Emmanuel. Au contraire. Maintenant, on a sorti des services qui arrivent à mettre en place des bases de données relationnelles at scale. Tu vois, ce qu'on veut dire, c'est que c'est vraiment un service cloud natif qui va pouvoir être géo-réparti, géo-répliqué, etc. et que l'on intègre à Cosmos DB. Donc, Emmanuel en dira un petit mot après. Mais sur les bases relationnelles pures, déjà, tu peux voir deux grands ensembles. Tu vois, dans le cloud Microsoft. Tu as les bases qui sont sur cœur SQL Server, d'accord, d'un côté. Et après, tu as tous les ensembles de bases de l'autre côté qui sont sur noyau open source. Voilà, c'est l'embranchement majeur que tu as sur les bases de données. Si on regarde sur le côté SQL Server, tu as tout ce qui est template de VM avec du SQL embarqué. Donc ça, c'est vrai, ça continue à exister. On a pas mal de clients qui demandent ça pour pouvoir tuner tous les éléments de leur base SQL. Après, tu as l'approche de service pass, donc service managé au niveau de l'instance. Et après, service managé aussi au niveau de la base. Et c'est Azure SQL Database. D'accord. Donc c'est les trois grands ensembles sur SQL. La particularité que l'on a maintenant, c'est que ces trois ensembles partagent le même noyau. Depuis la sortie de SQL Server 2022, il y a quelques semaines, tu vas être capable en fait de faire, par exemple, faire un backup sur une instance managée dans le cloud et de le restaurer dans ton data center. Tu vois. Ou vice versa, tu peux avoir. Voilà, maintenant tu as la réversibilité complète, c'est-à-dire tu fais un backup dans ton data center, tu restaures dans le cloud, et puis à un moment donné, tu as envie de faire un backup dans le cloud et tu restaures chez toi, ben c'est possible aussi. Tu vois. On a enfin un vrai serveur, enfin un vrai noyau relationnel SQL Server qui est nativement hybride. Donc tu vois, il est ou dans le cloud ou chez toi. Et de l'autre côté, l'autre ensemble, c'est les bases de données open source. Donc là, ce qui est sympa avec MS, c'est qu'on a eu un switch il y a quelques années sur l'open source. Mais on ne dénature pas l'open source. C'est-à-dire que on va prendre les noyaux type Postgre, tu vois, MariaDB, MySQL, et on va les encapsuler dans un service managé. C'est ce qui est fait chez MS. Donc, il n'y a pas de re-engineering du noyau open source, il n'y a pas de propriété intellectuelle qui est mise sur le noyau, voilà, qui est rajoutée. On va juste encapsuler ce noyau dans le service managé. Donc, ça t'apporte les SLA, tu vois, ça t'apporte les backups automatiques, la géoréplication, tu vois, plein de choses qui font que on vient juste alimenter et mettre en exergue des fonctionnalités qui existent déjà sur ce noyau open source. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de développer des applications ou autres directement avec ce que tu connais en on-premise sur ce noyau open source. Donc tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment deux grands ensembles dans Cloud. D'un côté, le monde Microsoft, très orienté SQL Server, et de l'autre côté, les bases de données open source, tu vois, en service managé. Voilà.
Après, pour compléter, hein, effectivement, ce qu'a dit Fred, faut pas mettre non plus en exergue que le NoSQL est un concurrent du SQL. C'est un peu relationnel, historique, depuis 1970. Le nombre de phase relationnelle à travers le monde est énorme. Et de toute façon, on en parlera peut-être plus en détail, mais le NoSQL n'est pas fait pour certains usages. Et pour certains usages, il vaut mieux utiliser du relationnel et des bases de données relationnelles. Donc, il n'y a pas de notion de concurrence entre les deux. Ça, c'est important de bien souligner. Il y a des besoins. Par rapport à des besoins, on a des choix à faire. On peut utiliser du SQL, du NoSQL. Et effectivement, hein, ce qui est important, ce qu'a souligné Frédéric, c'est cette notion de... L'idée de Microsoft, c'est d'offrir des services managés, PaaS, mais sans dénaturer le noyau, que ce soit du Postgres, que ce soit du MySQL. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, ce que j'aime pas, c'est d'aller récupérer les backups, de les mettre ailleurs, m'assurer par contre un certain nombre de SLA, etc. Et ça, Microsoft va le faire en offrant des services managés avec des noyaux et ne pas avoir à mettre à jour mon OS, ne pas avoir à mettre à jour mon réplica ou ces choses-là. Et c'est vraiment le but de tous les services managés relationnels. Et après, c'est se dire, ben, moi, j'ai des gens qui connaissent MySQL, j'utilise MySQL, j'ai des gens qui utilisent MariaDB, j'utilise MariaDB, Postgres ou SQL Server, tout simplement.
Je voulais revenir quand même sur les histoires de performance. Là, actuellement, par rapport à une base de données SQL Server on-premise et une base de données Azure SQL, on a la même chose ou il y a encore des limitations?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir même de meilleures performances sur le cloud que tu ne peux les avoir sur du on-prem. Parce qu'on a revu un peu notre approche sur SQL Server. Et maintenant, quand tu crées une VM SQL Server dans Cloud, c'est pas une simple VM. T'es capable, en fait, ta VM est identifiée comme une VM faisant tourner un moteur relationnel de type SQL. Et tu vas avoir un paramétrage qui va être lié spécifiquement à ton moteur SQL. Tu vois, par exemple, tu vas être capable de lui dire combien d'IO tu veux tirer sur tes disques, le type de disque et la latence que tu vas avoir, etc. etc. Donc, on est à un niveau de paramétrage du moteur qui est bien différent de ce que l'on faisait il y a quelques années, où au final, on traitait une VM SQL comme une VM Windows avec n'importe quel moteur tu vois, à l'intérieur. Donc, ces problématiques de performance, on en a beaucoup moins. Et en plus, avec cette approche cloud, maintenant, tu es capable d'avoir toujours les derniers processeurs, les derniers types de disques, etc. Donc, je t'avoue que les avancées sont bien plus rapides dans le cloud qu'en on-premise. Mm-hmm. Et on a beaucoup de clients qui switchent dans le cloud, justement parce que avec cette facilité de provisionner des serveurs, ils arrivent à avoir des performances qui n'atteignent pas en on-prem, quoi. Voilà. Donc c'est ce gap sur les performances, c'est quand même vraiment réduit ces dernières années.
D'accord.
Après, il y a aussi un autre phénomène, c'est que le cloud va permettre très facilement de mettre en place des concepts de partitioning et du processing parallèle. Et donc, par rapport à la capacité de traiter un certain nombre d'opérations à la seconde, entre une machine et 10 machines en parallèle, là, on va avoir un facteur de 10 très simplement. Donc, le cloud va nous permettre ça. On pourra parler d'Azure Cosmos Postgres. Frédéric en a déjà évolué. Donc, c'est du relationnel avec la capacité, effectivement, d'être sur une notion de scaling horizontal et de traiter en parallèle des traitements et de faire de la distribution de la donnée et d'offrir aussi des capacités de stockage infinies. Je peux avoir des bases avec des centaines de pétaoctets. Ce n'est pas un souci. Voilà, donc c'est le cloud offre cette souplesse et en plus très facilement et très rapidement.
Mmh. Oui, juste pour revenir un peu sur ce que tu dis, Emmanuel, c'est vraiment ce qu'apporte le cloud. Dans les data centers clients, on peut avoir une scalabilité qui peut être assez forte d'une façon verticale, donc le scale-up. Voilà, on va ajouter des cœurs, on va ajouter de la mémoire, ça c'est vrai. Par contre, dans le cloud nous ouvre la possibilité de faire une scalabilité horizontale, donc rajouter des serveurs à l'horizontale, ça c'est vrai, mais du coup facilite ce que l'on appelle dans le monde de la base le sharding, c'est-à-dire le dispatch des données d'une base sur plusieurs serveurs de façon horizontale. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant natif dans les moteurs relationnels dans le cloud, même avec du PostgreSQL, avec du SQL Server certes, mais aussi avec du PostgreSQL. Voilà, donc c'est ce qu'on a amené avec le cloud. Et ça change la notion de performance. Là où avant, on voulait de la performance qui était très verticale sur un serveur, Aujourd'hui, on a peut-être une performance qui est plus intelligente avec des serveurs à l'horizontale, peut-être plus de serveurs à l'horizontale, mais une puissance par serveur qui va être peut-être plus petite, où on va diminuer le nombre de cœurs par serveur, mais la charge va être répartie à l'horizontale, et qui au final sera peut-être bien plus performant qu'un gros serveur avec beaucoup de cœurs, mais on va avoir beaucoup de contingences au sein du serveur. Tu vois. Donc ça veut dire que ces approches de performance, elles sont un peu différentes maintenant dans le cloud qu'on les avait en on-premise.
Et puis pour terminer là-dessus, on a la capacité aussi d'auto-scaling et le fait aussi d'augmenter et de caler la performance de notre base à son utilisation, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Avant, il fallait acheter le serveur à l'avance avec une quantité de RAM et de mémoire ou d'IO estimée pour la prod, et maintenant on peut le faire grandir avec la consommation. Donc c'est ce qui est un avantage indéniable au niveau coût et performance.
C'est vrai, je te rejoins là-dessus et j'ajouterais même, maintenant on a apporté tout le côté aussi serverless sur la base de données, chose qui n'existait pas il y a quelques années, où vraiment on peut consommer la donnée on-demand sur une base. Si on consomme la donnée, le serveur se réveille et retourne la donnée. Et si on ne la consomme plus, le serveur n'existe pas et du coup on ne le paye pas. Et ça aussi, c'est une des nouvelles forces des solutions de base de données un peu cloud native dans le cloud. Quoi.
Avec des coûts hyper faibles.
Et ouais.
Génération spontanée de
c'est
de
ça.
Serveurs.
C'est ça, la génération du compute à la volée, comme on dit. Voilà.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Alors, on a vu tout ce qui était table, etc., et tout ce qui est base de données relationnelle. Donc, on arrive à la dernière catégorie, à moins que j'en ai oublié. C'est vous qui me le direz, où on va parler de base de données qui est un peu phare actuellement sur Azure, qui est le fameux Cosmos DB. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est du NoSQL. D'après ce que j'ai compris également, c'est qu'on peut s'amuser à cliquer sur une map monde et avoir des instances qui apparaissent comme ça aussi spontanément un petit peu partout dans le monde. Je pense que c'est Emmanuel qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette bête-là.
Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et un petit peu revenir, faire un petit peu d'historique, j'aime bien l'histoire, c'est se dire pourquoi est né le NoSQL. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, le monde relationnel arrivait à un certain nombre de limites et la scalabilité était problématique. Et des grands acteurs du web se sont dit comment je pourrais pas stocker des données, donc avoir une couche de persistance, tout en n'ayant pas à mettre énormément de CPU, énormément de VM ou énormément de mémoire, et donc pas multiplier par 2 le coût de ma machine, mais par 10, et plutôt se dire si on mettait en place un système de scalabilité horizontale. Et c'est comme ça qu'est né le NoSQL avant Cosmos DB, je parle. Donc l'idée du NoSQL en général, c'est de ça. Ensuite, dans le NoSQL, quand on parle du NoSQL, il faut bien comprendre qu'on a 4 grandes sous-familles de NoSQL, qui sont ce qu'on appelle des tables historiquement clé-valeur, d'accord ? Donc un Azure table est quelque part une base NoSQL, et d'ailleurs dans Cosmos, on a ce qu'on appelle Azure Cosmos Table, qui est un héritier d'Azure Table, avec des offres, on va dire, premium, ou certains nombres de services type enterprise, capacité de géoréplication, ou des choses comme ça, mais on utilise la même API, le même code. Ensuite, donc, les clés valeurs, de plus en plus, on s'est dit, quand on développe entre deux objets, on échange du JSON, et il y a des gens, ils ont dit, mais c'est pourquoi on ne stocke pas directement le JSON sans avoir à passer par un ORM, un mapping, etc. Donc on a vu apparaître ce qu'on appelle les bases documents, qui sont les bases, et donc Cosmos DB, par défaut, est une base documentaire, avec soit l'API NoSQL, soit l'API Mongo, je reparlerai de ça un petit peu plus en détail. Ensuite, une des bases phares du NoSQL qui existe, c'est la notion de colonne. C'est-à-dire que les premières bases NoSQL qui sont arrivées, les gens venaient du monde relationnel, se sont dit pourquoi pas mettre dans une notion de table et puis d'avoir une notion de base de type colonne avec de ColumnView et avec le Cassandra. Et donc CosmosDB est aussi capable effectivement d'avoir une API Cassandra et de stocker du format de type colonne. Et puis, le dernier type de NoSQL qui existe, c'est un concept un petit peu complètement différent. C'est-à-dire, c'est de dire, aujourd'hui, je veux plutôt avoir une approche métier et stocker des objets et des liaisons entre les objets. Alors, quand on parle d'objets, il faut bien comprendre qu'un objet, ça peut être, par exemple, des personnes avec des IP adresses. Et entre la personne et l'IP, ma personne utilise l'IP. Donc, quelque part, on va avoir une notion d'objet et de liaison entre les objets qui vont être caractérisés par des verbes. Et on va être capable de représenter ça d'une manière métier, ce qu'on appelle les bases graphes en général. Et par rapport à ça, il y a des standards qui existent, comme le langage Gremlin. C'est donc CosmosDB offre aussi une interface qui va me permettre de faire ce qu'on appelle une propriété graphe et du graphe avec du langage de type Gremlin. Donc, CosmosDB, c'est un service NoSQL à la base, qui va me permettre d'offrir tout ça. Après, l'historique de CosmosDB, c'est que quand le besoin historique, c'était pour Microsoft de dire je vais développer Azure, il me faut un portail, donc une application web qui va héberger des données, qui soit réplicable dans toutes les régions, que si une personne allait à Paris, qu'elle puisse se connecter à Paris, que si elle va à Milan, qu'elle puisse se connecter à Milan, que si elle va aux États-Unis à Seattle, qu'elle soit capable de se connecter à Seattle, qu'elle soit au Japon, qu'elle soit capable de se connecter quelque part en local, et donc que cette base soit capable d'être répliquée effectivement dans l'ensemble des régions où on va avoir Azure, puisqu'on va accéder à l'application la plus proche de chez moi, être capable de stocker des données non structurées, puisque entre une souscription des tenants, les différents services, personne n'utilise exactement les mêmes services, chacun va y mettre ses propres noms, donc être capable d'avoir cette notion-là. Et donc CosmosDB a été conçu à la base, et est toujours d'ailleurs, la base de données du portail Azure. Ça veut dire aussi, imaginez le nombre de pétas, etc., j'ai pas le droit de le communiquer, mais qu'il y a dedans, puisque toute configuration est dedans. Donc être capable d'être scalable, être capable d'être cost efficiency, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que comme toute entreprise, on ne veut pas acheter l'argent par la fenêtre, et donc comment on peut avoir un système qui soit scalable, qui ne coûte pas finalement trop cher, etc. Et donc CosmosDB a été créé à la base pour ça, et puis après ils se sont dit, de toute façon, nos clients ont besoin de services NoSQL, on va le mettre à disposition sous forme d'un service. Et donc c'est un service comme ça. L'idée de Cosmos, quand on parle de Cosmos, on a cette notion de Cosmos au sens aussi, quelque part, espace, donc c'est être capable d'être partout. Voilà, ça c'est la première raison. Donc être capable d'être distribuable partout et de se dire quand je crée un Cosmos, je vais pouvoir le répliquer dans l'ensemble des régions où va se trouver Azure. Donc on a 60 régions, je peux démarrer une base Cosmos, la remplir à Paris et la répliquer dans 60 régions et que suivant la région où je suis, mon application web vient de se connecter à la plus proche pour avoir la latence la plus faible. Et c'est vraiment l'idée et le concept de base de Cosmos.
Oui, la réplication est vraiment native, enfin, au moment de la conception même de la base de données.
Alors, même pas. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va démarrer une base Cosmos à Paris. Je vais travailler, je vais mettre des données dedans. Et puis, demain, je veux m'agrandir, déployer ma start-up à New York. Tout simplement, mon application qui va me permettre de faire mon métier, je la déploie à New York et puis je lui dis, au lieu que tu viennes te connecter à Paris au niveau de ma base de données, je réplique juste ma base. Quelle que soit la taille, on garantit qu'en moins d'une heure, votre base de données est répliquée dans une nouvelle région. Et puis après, je vais dire, l'application de New York va te connecter à New York. Et ça, je peux le répliquer dans l'ensemble des régions. Alors, voilà, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est de fournir aussi, de dire, on a une application qui a des SLA, puisque nous, en interne, chez Microsoft, on a voulu ces SLA pour le portail Azure. Il faut que la base qui l'héberge ait aussi ces SLA. Et donc, on a des SLA de 4.9 ou 5.9. Alors, 4.9 si on est monorégion, ce qu'on appelle. Mais si on est multirégion, on arrive jusqu'à 5.9. Après, avec aussi toutes les contraintes apportées par le théorème de CAP, qui vont être, quelque part, comment je vais pouvoir garantir la consistance de ma donnée. Donc, on a différents niveaux, strong consistance, mais la consistance qu'on appelle strong au niveau aussi d'une multirégion. Garantir une consistance strong dans un serveur SQL, ce n'est pas compliqué. Quand je suis mono-serveur, quand je commence à avoir des réplicas, ça commence à être plus compliqué dans une région, mais quand je suis en multirégion, c'est encore beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, on va réussir à offrir ces paris-là. Et l'idée, c'est de dire, vous êtes développeur, Vous avez besoin pour développer une base de type document, un site web, développer des systèmes de type, par exemple, Vue 360, qui sont des choses assez classiques où je vais agréger des données finalement. Je pourrais le faire dans une base relationnelle, mais je peux le faire aussi dans une base NoSQL et c'est quelque part plus simple à développer. Bah, je vais pouvoir utiliser un Cosmos DB très simplement. Et donc, ce qu'on a aussi annoncé dernièrement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, enfin, il ne faut pas mettre non plus en concurrence quelque part les bases NoSQL et relationnelles, mais c'est se dire, on a une base Postgres qui est avec ce qu'on appelait Postgres Hyperscale avec une capacité multi-région. On fournit des SLA, on a une capacité aussi de faire du partitioning et donc de faire du scale-up, du scale-down. Et on l'a renommé en Azure Cosmos DB Postgres. Donc aujourd'hui, quand on parle de Cosmos DB, on parle surtout d'un système qui est multi-région, qui est capable d'être distribué, qui offre des SLA avec une capacité de scale-up, scale-down, et qui a soit un moteur relationnel avec du Postgres, soit effectivement un moteur NoSQL. L'autre chose, c'est qu'effectivement, au niveau du moteur NoSQL, on a apporté, et c'est le premier vrai serveur vraiment serverless, on a une capacité de mettre un Cosmos en serverless, ce qui est très intéressant quand on commence à faire du développement, parce qu'on va nous payer vraiment quelle utilisation. Voilà, on va pouvoir mettre en place nos opérations. Et puis, on s'intègre dans tout l'écosystème Azure, donc on va être capable, avec mon serverless, des liaisons avec des fonctions, de faire des vraies applications, on va dire microservices, en full serverless, complètes, à la fois au niveau applicatif, au niveau base de données, etc. Donc on a vraiment des capacités assez avancées et très intéressantes. Et de plus en plus, Microsoft utilise en interne du Cosmos DB. Par exemple, si vous êtes joueur sur Xbox Live, tout votre profil d'utilisateur, tout l'historique de vos jeux sont stockés dans une base Cosmos, pas relationnelle. Si vous faites du Teams, tous les échanges, les chats sont stockés dans le Cosmos. Le portail Azure, ça j'en parlais, voilà. Et on a vraiment cette notion-là, soit pour faire... Et l'idée de Cosmos, c'est d'offrir vraiment une panoplie, de se dire, vous avez un use case qui a besoin d'un NoSQL, mais de type, par exemple, graph, quand je veux faire la détection de fraude, de type, je veux stocker différents types d'objets, quand je veux faire une vue 360, on va faire du document. Voilà, d'être capable vraiment de stocker l'ensemble des types et des possibilités en offrant des garanties de performance, des garanties de latence et des performances surtout, enfin, des garanties de SLA, donc de mise en place du service, et que le service soit fiable, délivré, et que je puisse m'appuyer sur ce type de service pour écrire ou persister mes données.
Juste une chose là, quand tu dis Cosmos DB, on peut l'approcher avec du GraphQL ou type document, type MongoDB ou du NoSQL pur et dur. Et est-ce que à partir du moment où on a développé une base Cosmos DB, on doit choisir une des API où on peut d'un côté dans une partie de l'application utiliser du NoSQL, dans une autre partie appeler avec du GraphQL?
Alors c'est une très très bonne question. Alors attention, il ne faut pas confondre GraphQL qui est une API et une base de données Graph.
Une base de données Graph.
On va parler soit en langage qu'on appelle Cypher, soit en langage Gremlins, qui sont un langage de développement. Et quand je dis Gremlins, je peux utiliser Butagora Graph, Janus Graph, différents moteurs Graph ou du Cypher, du Neo4j par exemple, etc. Et GraphQL, c'est une API, ça n'a rien à voir. Alors même si c'est un Graph, c'est un faux ami, on va dire. Après, non, on a effectivement, quand on crée un Cosmos DB, on va choisir l'API d'interaction avec laquelle je fais, donc quelque part le SDK de développement que je vais utiliser, qui va être soit ce qu'on appelle du NoSQL natif, qui est un SDK fourni par Microsoft, que vous pouvez développer en différents langages, Go, Java, Python, .NET, on reste API même, donc quelque part on peut brancher n'importe quel autre langage, vous voulez faire du C++, qui appelle la REST API de Cosmos, et ça va fonctionner. Ou effectivement, je vais dire, je vais démarrer avec l'API Cassandra, et dans ces cas-là, je vais avoir une interaction avec un langage qui s'appelle le SQL, qui est le langage de développement quand on fait du Cassandra. Aussi, je suis avec Mongo, je vais utiliser l'API Mongo, et donc des drivers Mongo, ou des outils Mongo, type Robot 3T, etc. On n'a pas cette notion. Pendant une période, il y a des gens qui avaient l'idée, effectivement, de se dire, je vais faire un système un petit peu, ce qu'on appelle de XJSON, pour stocker mes données, donc un système un petit peu générique qui me permettrait d'aller écrire avec une API Mongo et d'aller lire avec une API Cassandra, par exemple. Non, on n'a pas cette notion-là. Donc on choisit quelque part une interface avec laquelle on va faire du et on va développer. Et je vais développer mon applicatif avec, quelque part, le driver, soit NoSQL natif fourni par Microsoft, soit effectivement Mongo, soit Cassandra, ou soit en graph, donc avec du langage Gremlin. L'idée, c'est de faciliter la vie du développeur. Je ne connais du Gremlin, je peux faire une base graph, pouf, j'y vais. Je connais l'API Mongo, je fais du Mongo. Je connais plutôt, on va dire, j'ai l'habitude d'écrire des requêtes SQL, notre API NoSQL permet d'envoyer des requêtes qui sont sur ce qu'on appelle un SQL-like. Donc je vais écrire un select, étoile, alors avec des fonctionnalités, effectivement, d'aller dans des sous-documents, être capable aussi d'aller dans des tableaux, ou des choses comme ça, donc des spécialités, on va dire, ou des mots-clés liés au NoSQL, mais j'écrirai une notion de select, donc quelque chose qui peut être assez connu. Donc si je veux passer quelque part de manière la plus simple d'un monde relationnel à un monde NoSQL, l'API NoSQL apporte cette facilité de se dire, j'ai un langage qui est un peu familier, voilà, je sais faire un select, order by, group by, ou ces choses-là, j'ai ces notions-là. Déjà.
D'accord. Ok. Bon, je pense que je suis un petit peu plus éclairé sur MongoDB, c'est-à-dire sur CosmosDB. Juste une, sans qu'on entre véritablement dans le détail, il y a juste un petit point, c'est sur cette notion entre guillemets de réplication qui existe entre les différentes instances, les différentes régions où sont installées notre base. Pour avoir une, je crois qu'on a la possibilité de fine-tuner entre guillemets cette réplication. Pour être sûr que, par exemple, toutes les transactions arrivent dans le même ordre ou ce genre de choses, quoi.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les différents niveaux de consistance. Donc, effectivement, Cosmos fournit pas deux niveaux de consistance assez classiques qu'on a dans les bases de données, soit ce qu'on appelle éventuel, soit strong. Il va fournir 5 niveaux de consistance par rapport à cette notion de multi-région. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que je vais définir au niveau de mon endpoint, l'équivalent quelque part de mon moteur, un niveau de consistance que je vais pouvoir en plus surcharger pour une opération. C'est-à-dire, je peux dire, je vais mettre mon niveau en éventuel, mais pour des opérations qui vont être transactionnelles, je vais vouloir les surcharger et qu'ils soient en strong consistency. Ça, c'est tout à fait possible. Déjà, ça, c'est une première chose très très intéressante et assez avancée. Et deuxièmement, quand on parle des 5 niveaux de consistance, l'idée effectivement, alors, éventuel, tout le monde sait ce que c'est, strong consistency, ça veut dire de la strong consistency multi-région. Ça veut dire que quand j'écris à Paris, je vais attendre que mon information, si j'ai décidé qu'elle soit répliquée à Londres, à Marseille et à Amsterdam, qu'elle soit écrite dans toutes mes autres régions Azure avant d'acquitter quelque part, parce que j'ai une notion d'acidité sur un document, donc j'ai une notion de transaction mono-document qui est mise en place. Et donc, dans ces cas-là, je vais redonner la main au développeur en lui disant, c'est bon, si tu vas lire cette information, même si tu vas la lire à Londres ou Marseille, tu liras la dernière donnée qui est écrite. Mmh. Et ce qu'on a par rapport à ça, parce que beaucoup de clients sont finalement que monorégion, c'est se dire, ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu des systèmes intermédiaires. Et donc, se dire, effectivement, j'ai une notion de session qui est, par rapport à Paris, j'écris à Paris, puis je réplique à Amsterdam. Ce que je veux surtout m'assurer, c'est que si quelqu'un vient lire à Paris, il soit en strong consistency, mais local. Donc ça, c'est le niveau session qui est intéressant et le plus utilisé. Et puis l'autre chose, c'est de dire, effectivement, quand je fais en l'éventuel, je peux écrire en ordre A, B, C, mais finalement, ce qui va arriver entre Paris et Marseille, ça va être un ordre différent, ça peut être C, B, A. Et ce que je veux m'assurer, c'est que l'ordre d'arrivée de ma réplication soit quelque part l'ordre d'écriture. Donc si j'écris A à Paris, ce soit d'abord A à Marseille, B, B, C. C'est ce qu'on appelle le préfixe index, le préfixe. Comme ça, on est sûr quelque part de l'ordre. Et puis le boost and place, l'idée, effectivement, on a une conception aussi qu'on n'a pas forcément évoquée dans CosmosDB, c'est la capacité d'avoir du multi-write. Donc un vrai moteur multi-write, je vais écrire. Mon application de Marseille va écrire à Marseille, mon application de Paris va écrire à Paris. Et il faut aussi faire dans l'application, une fois que j'écris à Marseille, il faut que je réplique à la base de Paris, etc. Donc on a une capacité à gérer une gestion de conflit. On a une par défaut, on peut la surcharger, créer sa propre gestion de conflit. Et si on en a, bien sûr. Et puis surtout, par rapport à ça, c'est se dire, là je ne peux pas être en strong consistency, puisque ce serait en tilt, théorème de cap. je vais écrire dans deux régions, enfin, j'ai une notion de réseau, etc. Donc, par contre, là, on a un niveau de consistance qui est de dire, je vais me garantir qu'en laps de temps, de 5 secondes, je vais garantir que je suis en strong consistency après 5 secondes pour 100 000 opérations, par exemple. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bound stateless, où je suis en éventuel pendant un petit peu de temps, mais après, je vous garantis qu'on est en strong consistency parce qu'on est en multi-watt.
Ouais, donc on a vraiment, on peut aller vraiment très finement et c'est plus de la réflexion que des problèmes techniques à mettre en œuvre, quoi.
Tout à fait. L'idée, hein, c'est d'affranchir le développeur de toutes les tâches de DBR un maximum, effectivement. Alors, on a une autre manière, hein, c'est plutôt de, on va dire, scheduler tout ce qui est optimisation, parce qu'on a une notion de cloud, et donc, si on écrit une requête qui est mal écrite, ça peut... après, ça a un impact sur la performance, mais aussi sur le coût, c'est-à-dire qu'elle peut coûter plus cher que ce qu'elle a vraiment besoin en termes de ressources.
Ok, bon, Michel, tu veux sur Cosmos DB, toi tu connais bien, je crois.
Oui, bah, je l'utilise sur pas mal de projets, mais ce qui est important, c'est de l'utiliser. C'est, si on résume ce que dit Emmanuel, et quand il parle de chaque fonctionnalité, et chaque fois il associe un usage, et je pense que ce qui est important, que ce soit dans Cosmos ou dans le stockage en général, c'est de choisir la base qui correspond au bon usage. Parce qu'on peut avoir des usages où, ce qu'on a dit tout à l'heure, la base relationnelle, le très bon stockage, dans ce cas-là, on va l'utiliser. Et si on veut mettre une base Cosmos DB dedans, ben, on va pouvoir stocker la donnée, mais elle sera pas, les accès ne seront pas performants, ça va coûter cher en accès, on va avoir de la latence pour rien. Donc voilà, ce qui est important, c'est en fonction de chaque usage de la donnée, bien choisir le stockage adapté et pas partir du principe qu'une application égale un seul stockage. On peut très bien avoir plusieurs stockages différents pour une application et l'adapter en fonction. L'exemple que je prends souvent, c'est pour avoir vu des bases relationnelles sur des sites e-commerce, on peut très bien mettre le bac dans des bases relationnelles pour garder la consistance forte en relationnelle sur les tables produits, les commandes, et puis avoir une version NoSQL très dénormalisée pour le site marchand. Ouais. Ce qui fait que la page d'un produit, on la récupère en une seule requête, puisqu'on peut récupérer toute la donnée dans un seul JSON. Donc voilà, bien adapter le stockage de la donnée à son usage et pas partir du principe que je vais tout faire dans une base donnée et après forcer l'application à rentrer dans le moule de la base qu'on a choisie.
C'est vrai que c'est le genre de scénario qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années, quoi.
Ben non, parce qu'à une époque, quand on n'avait pas le cloud, on était contraint par les bases qui étaient supportées par nos... Par les gens de l'infra, et généralement dans le monde .NET, on n'avait pas grand chose en dehors que SQL Server. Quoi.
Ouais.
Alors, c'est très marrant parce que pour compléter, par exemple, j'ai développé un exemple pour illustrer ça où j'ai développé une gestion d'un restaurant en ligne. Et par rapport à ça, ce que je voulais, c'est offrir une fonctionnalité quelque part d'enregistrement pour l'utilisateur et puis peut-être qu'il s'enregistre et envoyer un email de validation avec un système. Et là, j'utilise du NoSQL parce que j'ai des liaisons avec les fonctions. Ensuite, alors ceci, j'aurais pu tout faire effectivement avec le moteur NoSQL, mais j'ai mis en place une API Mongo pour la gestion de catalogue, la diffusion, la mise en place des commandes. Et après, j'utilise un moteur NoSQL Graph, parce que quand j'ai une commande, je vais enregistrer effectivement l'adresse IP de la personne, je vais enregistrer le nom de la personne, la ville où il vient de commander, et j'essaye de faire la détection d'une fraude, ou de la suspicion de fraude, on va dire, avec un moteur graphique. Donc j'essaye d'adapter effectivement le stockage aux besoins fonctionnels. Et ça, avec Cosmos, bah, j'ai trois moteurs différents parce que j'ai des fonctionnalités dans le premier moteur pour renvoyer le mail automatiquement, le binder avec une Azure fonction. Dans le deuxième, parce que c'est très simple de stocker finalement des JSON que je vais récupérer avec mes plats, etc. Et j'ai par exemple des images pour afficher mes plats. Bah, les images, je les stocke sur un blob storage. Et dans ma base de données, je fais un lien sur mon blob storage. Je ne vais pas stocker mes images dans une base de données, ce qui est une aberration de stocker des gros fichiers ou du gros volume. Donc vraiment adapter son stockage par rapport aux besoins applicatifs et avoir dans une solution plusieurs stockages, c'est aujourd'hui de plus en plus la norme et c'est vraiment ce qu'il faut faire.
Et puis on a pas mal de choses qui sont sympas avec les stockages qu'on a dans Azure, cette capacité de réagir quand le stockage est modifié. Donc on peut faire des triggers sur les secondes de stockage quand les blobs sont ajoutés pour pouvoir réagir derrière. Il y a toujours des modes, des scénarios qu'on trouve sur le net où on stocke une image, une Azure fonction se réveille, elle calcule les différentes tailles de vignettes adaptées. On a le changelog sur Cosmos DB pour capturer chaque modification pour pouvoir réagir après derrière. On trouve pas mal de scénarios avec du signalaire derrière pour faire de la donnée temps réel à partir d'une donnée stockée. Et sur SQL Azure, on a le change data capture, c'est ça je crois le nom, oui, qui permet de faire la même chose et donc réagir aussi quand une donnée de relationnel est modifiée pour pouvoir faire de l'événementiel derrière. Donc c'est aussi des scénarios sympas qui évitent qui permettent de découper l'application en des composants serverless très peu coûteux.
Bon, bah écoutez, merci. Moi, si je résume bien, moi j'avais plein de questions au début où je ne savais pas quoi choisir. Et donc là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je choisisse tout. pour conclure, Frédéric, tu voulais...
Ouais, moi je veux juste ajouter... donc là, on a pas mal parlé base de données. Il ne faut quand même pas oublier le cache, d'accord, qui n'est pas une base en tant que telle, mais que l'on a l'habitude, voilà, de mettre on top des bases. Donc on peut citer par exemple un cache Redis qui existe maintenant managé sur Azure. Mais cette notion de cache aussi qui vient d'arriver au-dessus de Cosmos DB. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, on peut maintenant créer une instance, donc un compute intermédiaire de type cache entre notre base NoSQL et notre application. Ce qui évite en fait de tout le temps aller taper le back-end, taper la base et plutôt aller chercher des choses qui sont remontées une fois dans le cache, et après ça nous évite de faire des lectures trop souvent sur la base. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est beaucoup utilisé dans le monde du dev pour des caches de session, des caches de données ou autres. Donc voilà, toujours à considérer. Je pense que ça peut aussi alléger la sollicitation des back-ends et du coup diminuer la taille, tu vois, des computes liés aux bases de données et puis avec une latence qui est bien moindre. Voilà.
Qui est garanti surtout sur Cosmos.
Exactement.
Ok, et bah écoutez, bah je vous remercie, c'était très, très intéressant. Et bah écoutez, à une prochaine fois. Merci.
Merci, merci. Bonne journée.
Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.